Chapitre 4 Un cadeau d'Atahualpa. Ils pénétrèrent dans la ville vers le soir, et ce qui frappa d'abord tous les voyageurs fut le grand nombre des Indiens qu'ils rencontrèrent dans les rues et aussi leur silence. Caramarca compte à l'ordinaire 12 à 13 000 habitants. Ce soir-là, elle en abritait certainement le double. Du reste, la caravane avait rencontré en cours de route de longues files d'Indiens qui, toutes par les routes venant de la Costa ou de la Montagna, se dirigeaient vers la cité sainte, car Caramaja est l'une des plus sacrées qui soit pour les indigènes. On peut dire d'elle qu'elle est la nécropole des Incas, et l'on ne peut faire un pas dans les rues ou sur ces places publiques sans retrouver nombre de souvenirs de l'antique splendeur de l'Empire disparu. Il était facile de voir à l'allure des Quichuas rencontrés sur ces pavés historiques que tout ce peuple s'était rendu là dans une pieuse pensée de pèlerinage. Et les plus étonnés ne furent point les voyageurs, mais les habitants de la ville eux-mêmes qui ne se souvenaient point d'une pareille invasion. Jusqu'alors, de mémoire d'homme vivant, la fête de l'Interaimi n'avait visiblement remué aucune foule. Même pour la grande solennité des Sennals, l'Indien disparaissait plutôt qu'il n'apparaissait. Mais que signifiait au juste tout ce mouvement? Les autorités étaient assez inquiètes, mais n'avaient aucune raison d'intervenir. Les quelques troupes dont on disposait alors à Caramarca et qui étaient venues dans cette ville pour parer à toute éventualité depuis que Garcia avait brandi à l'autre extrémité du Pérou, l'étendard de la révolte, en faisant appel au fanatisme des Indiens, avait été consigné. Les portes des 8 églises étaient gardées militairement, dans la crainte de surprise, car chacun de ces monuments pouvait facilement être transformé en forteresse. Enfin, le reste de la force publique se trouvait réuni sur la place centrale, non loin des restes du palais où se trouve la fameuse pierre sur laquelle avait été brûlé Atahualpa, le dernier roi Inca. C'était là le centre de toute cette muette manifestation, le but des longs voyages d'Indiens à travers la montagne. Du moins était-ce là, cette visite à cette pierre, le prétexte religieux qui semblait les avoir poussés vers Caramarca en un si grand nombre. Le marquis, stupéfait, rappelait avec inquiétude que la grande révolte indigène de 1818 avait été précédée de manifestations semblables. Est-ce que vraiment les fêtes de l'Interaimi, qui devaient commencer le lendemain et durer 15 jours, allaient être le signal d'un de ces mouvements populaires que les gouvernements péruviens croyaient depuis longtemps n'avoir plus à redouter? Dans le moment que Cristobal se posait cette question, il s'arrêta tout net devant une bâtisse dont l'enseigne annonçait le bureau de poste. Et il mit pied à terre tout de suite. Raymond et Marie-Thérèse échangèrent un sourire. On allait enfin savoir quel était le nom du facétieux expéditeur du bracelet Soleil d'Or. Et ils arrêtèrent leur mule, attendant le retour du marquis avec une indifférence qui était peut-être un peu affectée. Au bout de 10 minutes, le marquis ressortait du bureau de poste. « J'ai le nom et l'adresse, » dit-il d'un air assez préoccupé. « Et comment s'appelle notre expéditeur ?» demanda Marie-Thérèse. « Il s'appelle Atahualpa, » répliqua le marquis en remontant sur sa mule. Oh, « C'est la plaisanterie qui continue, » répliqua Marie-Thérèse, la voix légèrement changée. Ben, « je le crois, » dit Cristobal. « J'ai parlé à l'employé qui a reçu le colis postal et qui n'a pas de peine à se rappeler la physionomie de l'expéditeur, car selon de l'Atahualpa, l'avait également frappé. » La boîte a été apportée par un Indien Quichua qui, sur la question de l'employé, a répondu qu'Atahualpa était véritablement son nom, ce qui, après tout, est bien possible. Mais puisqu'il a donné son adresse, allons lui faire une petite visite, dit Raymond. J'allais vous le proposer, fit Cristobal. Et il poussa sa mule pendant la direction de la troupe. François Gaspard fermait la marche, toujours prenant des notes, le carnet sur le pommeau de sa selle. Ils traversèrent un ruisseau qui va se jeter dans un affluent du haut Mamramon, passèrent près des ruines de San Francisco, la première église construite au Pérou, et le marquis, après avoir demandé plusieurs fois son chemin, conduisit ses compagnons sur une place grouillante d'Indiens. Sur un des côtés de cette place s'élevaient d'antiques murailles qui avaient conservé forme de palais. Ça avait été là la dernière demeure du dernier roi Inca. Là, il avait vécu dans sa gloire et là, il s'était préparé au martyre. Là avait habité Atahualpa et c'était là que l'employé des postes avait envoyé Cristobal de la Torre. Prise dans un remous de la foule, la caravane dut subir un singulier mouvement qui la poussa vers le palais, dont elle se trouva avoir franchi les vastes portes sans qu'elle pût exactement se rendre compte de la façon dont il avait été amené. Ils étaient maintenant dans une large enceinte pleine d'Indiens, les uns debout montrant orgueilleusement des fronts de chefs, les autres prosternés autour d'une pierre centrale, la pierre sacrée, la pierre du martyr. Derrière cette pierre, debout sur un escabeau, un indigène drapé dans un poncho d'un rouge éclatant, et tel qu'aucun Espagnol qui était là n'avait pu encore en voir sur les épaules d'un Indien, parlait. Et tous l'écoutaient dans un silence impressionnant. Il parlait à cette foule en Indien quichua. Or, à l'arrivée de Cristobal, de Marie-Thérèse, de Raymond et de François Gaspard, une voix se fit entendre qui interrompit l'espèce de récit psalmodié de l'homme aux penches rouges. Et cette voix disait « Mais parlez espagnol, tout le monde comprendra. » Le marquis et Marie-Thérèse se retournèrent. Le commis de la banque franco-belge était derrière eux, les saluant et leur faisant comprendre qu'il était aimablement intervenu à leur intention. Chose extraordinaire, cette interruption qui eût pu passer pour sacrilège ne fut suivie d'aucun murmure. Et l'Indien aux poches rouges parla espagnol. Il disait « En ce temps-là, l'Inca était tout puissant, son armée était formidable. La cité avait ses maisons d'argile au soleil et ses trois murailles en spirale bâties en pierre de taille. C'était un lieu très fort, il y avait une citadelle et un couvent habité par les Vierges du Soleil. L'Inca, l'hospitalier, qui ne craignait rien et qui ne connaissait pas la trahison, laissa entrer les hommes blancs dans cette ville qui eût pu être leur prison et où ils furent reçus en amis, comme des envoyés nobles de l'autre grand empereur qui régnait au-delà des mers. Or, également dans ce temps-là, le chef des étrangers avait partagé sa petite armée en trois parts, et il avait marché sur la ville en ordre de bataille, car il doutait du cœur généreux de l'Inca. Alors l'Inca dit « Puisqu'ils craignent notre hospitalité, sortons tous de cette ville dont ils feront leur asile, et la paix entrera dans leur cœur. » Ainsi, lorsque le conquistador approcha avec ses soldats en bataille, personne ne sortit pour le recevoir, et il traversa les rues à cheval sans rencontrer aucun être vivant et sans entendre d'autre son que l'écho des pas de ses lourds guerriers. Ici, l'homme rouge sembla se recueillir et il reprit. Ceci se passait à une heure avancée de l'après-midi. L'étranger envoya aussitôt une ambassade au camp de l'Inca. Le frère de l'étranger, qui s'appelait Fernando, vint au camp avec 20 cavaliers. Il demanda à parler à l'Inca. Or, celui-ci le reçut sur son trône, le front entouré du Bora royal. Il était au milieu de ses officiers et de ses femmes. les étrangers apportaient des paroles de miel. Or, l'Inca dit « Dites à votre capitaine que j'observe un jeûne qui finira demain. Je le visiterai alors avec mes principaux chefs. En attendant, je lui permets d'occuper les bâtiments publics de la place et point d'autre jusqu'à mon arrivée. Je leur donnerai alors ce qu'il y aura à faire. » Or, après ces bonnes paroles, il arriva qu'un cavalier espagnol, pour remercier l'Inca qui n'avait encore jamais vu d'homme à cheval, déploya son talent d'écuyer. Mais quelques personnages présents ayant marqué de la frayeur, cependant que l'Inca restait impassible, l'Inca les fit mettre à mort comme il était juste. Après quoi, les ambassadeurs burent la chica dans les vases d'or présentés par les Vierges du Soleil. Et ils se retournèrent à Caramaja. Or, ils rapportèrent tristement à leur chef ce qu'ils avaient vu, la magnificence du camp, la force et le nombre des troupes, leur belle ordonnance et leur discipline. Le désespoir entra dans le cœur des soldats de l'étranger, surtout lorsque la nuit fut venue et qu'ils virent les feux de l'Inca éclairant les flancs des montagnes et brillant dans l'obscurité aussi pressés que les étoiles du ciel. Ici, l'homme rouge se recueillit encore, puis il poursuivit. Mais l'étranger, que rien n'abattait dans le mal, passa dans leur rang et leur versa la parole honteuse qui devait ranimer les courages. Or, le lendemain, à midi, le cortège de l'Inca se mit en marche. Élevé au-dessus de la foule, on apercevait le roi porté sur les épaules des principaux de la nation. L'armée, derrière lui, se déployait dans les vastes prairies aussi loin que l'œil pouvait atteindre. Dans toute la ville régnait un profond silence, interrompu seulement de temps en temps par le cri de la sentinelle qui signalait du haut de la forteresse les mouvements de l'armée de l'Inca. D'abord entrèrent dans la ville quelques centaines de serviteurs qui chantaient dans leur marche des chants de triomphe, résonnant aux oreilles de l'étranger comme les chants de l'enfer. Puis des guerriers, des gardes, des seigneurs aux costumes lamés d'argent, de cuivre et d'or. Notre Atahualpa, fils du soleil, était porté sur une litière et assis au-dessus de tous sur un trône d'or massif. Or, le cortège parvint jusqu'au cœur de la plaza sans avoir rencontré un visage blanc. Quand Atahualpa, fils du soleil, fut entré dans cette place avec 6 000 des nôtres, il demanda « Où sont les étrangers ?» Or, à ce moment, un moine, que personne n'avait encore aperçu, s'avança vers l'Inca, une croix dans la main. Il était accompagné d'un indien interprète qui lui exposa les principes de la foi de l'étranger et lui demanda d'abandonner son Dieu pour celui des chrétiens. Atahualpa répondit « Votre Dieu fut mis à mort par les hommes qu'il avait créés, mais le mien, dit-il en montrant sa divinité, qui dans ce moment même s'abaissait dans sa gloire derrière les montagnes, « mon Dieu vit encore dans les cieux, d'où il regarde ses enfants. » À ces paroles de l'orateur rouge, tous les Indiens qui entouraient Cristobal et son compagnon se tournèrent vers le soleil qui allait disparaître derrière les Andes et firent entendre un étrange cri d'allégresse, cri d'adieu et d'espoir à l'astre du jour transmis par les générations. Par une fente de la muraille, on apercevait la pourpre éclatante du soir inca, et la scène avait une telle grandeur que Marie-Thérèse et Raymond ne purent s'empêcher de tressaillir. Oui, on ne pouvait plus en douter. Le dieu soleil avait encore ses fidèles comme au soir tragique d'Atahualpa. Il n'y avait qu'à les voir, tous exaltés, frémissants, ces hommes qui avaient conservé le même langage, les mêmes mœurs depuis tant de siècles. La conquête avait passé sur eux sans les changer. Ils avaient conservé leurs traditions. Et ce n'était peut-être pas une légende, après tout, qu'au fond des montagnes, dans quelques cités restées inconnues, insoupçonnées des autres races, défendues par le rempart inaccessible des Andes et des neiges éternelles, il y avait des prêtres qui travaillaient incessamment à attiser la flamme sainte. Leur histoire, plus durable encore que leurs monuments, dont les ruines prodigieuses étonnent cependant le voyageur autant qu'aux plaines de Louxor et de Karnak, leur histoire immortelle passait, avec tous ses détails privés, de bouche en bouche à travers les âges. Et le miracle de l'immobilité du récit ne s'était peut-être accompli que parce que ce peuple n'avait pas d'écriture. Pas d'écriture, elle était défendue. Pas de littérature chez l'Inca, pas de mensonges poétiques. Seule la mémoire fidèle, aidée par les quipos, petites cordes à nœuds qui servaient à compter et à se rappeler, seule la mémoire fidèle répétait les mêmes mots et faisait recommencer les mêmes choses aux mêmes heures du monde, depuis un temps sans nombre. Ils écoutèrent le récit de la mort d'Atahualpa à genoux. Chose singulière, la plupart d'entre eux, en se courbant, faisaient le signe de la croix. Mais d'où venait-il ce signe-là? Fallait-il trouver là seulement la preuve nouvelle de cet amalgame extraordinaire des cultes anciens et nouveaux dont s'était accommodée la basse classe indienne, jadis pourchassée par l'Inquisition? Arrivait-il de plus loin encore? Certains historiens ont prétendu que les premiers conquérants le trouvèrent, ce signe, chez les Aztèques et les Incas, d'où cette conclusion que la civilisation des deux empires pouvait avoir pour origine ou pour accélératrice la prodigieuse aventure de naufragés chrétiens, chercheurs de l'inconnu à travers les Indes, la Chine, les mers du Pacifique. Que de problèmes soulevés et jamais résolus! Indifférent au drame actuel qui se nouait autour de lui, l'illustre François Gaspard Ozou de l'Institut ne vivait que dans le passé, sa philosophie de pacotille, ne trouvant pas le lien qui rattachait la tragédie antique aux gestes de l'homme aux ponches rouges et aussi aux mouvements de cette foule qui avait rejeté les descendants du conquistador jusque dans cette salle où l'on pleurait la mort d'Atahualpa. De sa voix psalmodique, le prêtre rouge rappelait les terribles étapes de l'étrange infortune. Pizarre et ses cavaliers, prêts au combat, se tenaient dissimulés dans les vastes salles des palais qui entouraient la plaza. C'est là que le moine qui avait su parler du vrai dieu Atahualpa vint les rejoindre. « Ne voyez pas, dit-il à Pizarre, que tandis que nous nous épuisons en parole avec ce chien plein d'orgueil, la campagne se couvre d'Indiens. Mais courez-lui sus, je vous donne l'absolution. » On en était arrivé au drame, à ce que l'homme rouge appelait le crime de l'étranger. Pour le raconter, il se haussa encore sur son escabeau, et son geste menaçant domina la foule, et Cristobal lui-même sur sa mule et ses compagnons. On sut alors comment, s'élançant sur la place, Pizarre et ses soldats avaient poussé leur vieux cri de guerre. « Saint-Jacques, et tombons sur eux !» Tous les Espagnols qui étaient dans la ville y répondirent par le cri de combat, et s'élançant des grandes salles où ils étaient cachés, ils se répandirent sur la plaza, fantassins et cavaliers, et se jetèrent au milieu de la foule des Indiens. Ceux-ci furent saisis d'une terreur panique. Ils ne savaient où fuir pour éviter la mort qui les menaçait. Nobles et gens du peuple, tous avaient été foulés aux pieds sous les charges furieuses des cavaliers qui frappaient à droite et à gauche sans ménagement, pendant que leurs épées, étincelant dans la fumée, portait l'épouvante au cœur des malheureux indigènes qui voyaient alors pour la première fois le cheval et son cavalier dans tout ce qu'ils ont de terrible. Ils ne firent aucune résistance, à la vérité, ils n'avaient pas d'armes. Toutes les issues étaient fermées, car l'entrée de la place était encombrée des corps de ceux qui avaient péri en faisant de vains efforts pour fuir, et telle était l'angoisse des survivants, sous la pression effroyable de leurs assaillants, qu'une troupe nombreuse d'Indiens renversa, par des efforts convulsifs, le mur de pierre et de mortier séché qui formait en partie l'enceinte de la plaza. Ce mur tomba, laissant une ouverture de plus de 100 pas, par laquelle des multitudes se jetèrent dans la campagne, toujours chaudement poursuivies par la cavalerie, qui, sautant par-dessus des décombres, s'élança sur les fugitifs, les abattant de tous côtés. Au milieu de cette bataille, la litière d'Atahualpa et son trône d'or massif étaient ballottés terriblement, cependant que le roi assistait au massacre des siens. Les soldats espagnols parvinrent par un effort suprême jusqu'à lui et voulurent le tuer. Mais Pizarre, qui était le plus rapproché de lui, s'écria d'une voix de stentor : Que celui qui tient à sa vie ne touche pas à l'Inca ! Et en étendant le bras pour le protéger, il fut blessé à la main par un de ses soldats. La lutte devint plus acharnée que jamais autour de la litière royale. Elle vacillait de plus en plus, et enfin plusieurs des nobles qui la portaient ayant été tués, elle fut renversée. Pizarre et ses compagnons reçurent l'Inca dans leurs bras. Le Borla impérial fut immédiatement attaché du front du malheureux monarque par un soldat nommé Estete, et Atahualpa, fortement escorté, fut conduit dans la salle voisine à l'endroit même où le prêtre rouge Quichua, tantôt de sa voix râlante, tantôt gémissante, tantôt menaçante, racontait ces choses mémorables et tristes. Toute résistance avait cessé à l'instant. La nouvelle du sort de l'Inca se répandit bientôt dans la ville et dans tout le pays. Le charme qui aurait pu tenir les Péruviens réunis était rompu. Chacun ne pensait qu'à sa sûreté. Les soldats même qui étaient campés dans les champs voisins prirent l'alarme en apprenant la fatale nouvelle et se dispersèrent. Le soir, Pizarre fit souper à Atahualpa à sa table. L'Inca montra un courage surprenant et rien ne put lui faire perdre son impassibilité. Le lendemain, on commença à piller. Jamais les Espagnols n'avaient rêvé autant d'or ni d'argent. Et c'est alors que Atahualpa ne tarda guère à découvrir chez ses vainqueurs, sous les apparences du zèle religieux qui tendait à le convertir, une passion cachée, plus puissante dans la plupart des cœurs que la religion ou l'ambition, c'était l'amour de l'or. Il dit un jour à Pizarre que s'il voulait le mettre en liberté, il s'engagerait à couvrir d'or le plancher de la chambre où ils étaient. Ses auditeurs l'écoutaient avec un sourire incrédule, et comme l'Inca ne recevait pas de réponse, il dit avec emphase qu'il ne couvrirait pas seulement le plancher, mais qu'il remplirait la chambre d'or aussi haut qu'il pouvait atteindre. Et se mettant sur la pointe des pieds, il leva sa main contre le mur. Tous les yeux exprimèrent la surprise, car ces paroles semblaient la vanité insensée d'un homme trop avide de recouvrer sa liberté pour peser la valeur de ses mots. Cependant, Pizarre était cruellement embarrassé. À mesure qu'il s'avançait dans le pays, beaucoup de choses qu'il avait vues et toutes celles qu'il avait entendues avait confirmé les rapports éblouissants qu'on avait reçus d'abord au sujet des richesses du Pérou. Atahualpa lui-même lui avait fait la peinture des plus brillantes de l'opulence de Cusco, la première capitale des Incas, où les toits des temples étaient revêtus d'or, tandis que les murailles étaient couvertes de tapisseries et le sol pavé de tuiles de ce précieux métal. Il devait y avoir quelque fondement à tout cela. Dans tous les cas, il était prudent d'accepter la proposition de l'Inca, puisqu'en agissant ainsi, il pouvait réunir tout l'or dont il disposait et par là empêcher les indigènes de le soustraire ou de le cacher. Il acquiesça donc à l'offre d'Atahualpa, et tirant une ligne rouge sur le mur à la hauteur que l'Inca avait indiquée, il fit enregistrer exactement par le notaire les termes de la proposition. La chambre avait environ 17 pieds de large sur 22 de long, et la ligne était tracée sur le mur à 9 pieds du sol. Arrivé à cet endroit de sa psalmodie que nous avons résumé ici dans un récit nécessaire à faire apparaître le passé vivant aux yeux du lecteur, le prêtre rouge s'arrêta, s'enfuit à la muraille et indiqua du doigt une trace encore assez nettement visible et il dit « Là fut la marque de la rançon !» L'espace devait donc être rempli d'or jusqu'à cette ligne. Mais il fut entendu que l'or devait ne pas être fondu en lingots, mais conserver la forme des objets qu'on en avait fabriqués, afin que l'Inca eût le bénéfice de l'espace qu'ils occupaient. Atahualpa convint en outre de remplir deux fois d'argent une chambre voisine de grande dimension, et il demanda 2 mois pour remplir ses promesses. Bientôt, ses émissaires, choisis parmi les prisonniers, partirent pour toutes les provinces de leur pire. L'Inca, dans sa prison, était très surveillé, naturellement, car en même temps que sa captivité assurait la sécurité de Pizarre, il représentait pour lui maintenant une richesse fabuleuse. Dans son infortune, Atahualpa reçut la visite des principaux seigneurs de la cour, qui ne se risquaient jamais en sa présence sans avoir d'abord quitté leurs sandales et sans porter en signe de respect un fardeau sur leurs épaules. Les Espagnols regardaient d'un œil curieux ces actes d'hommage, ou plutôt de soumission servile, d'une part, et de l'autre l'air de parfaite indifférence avec lequel ils étaient reçus comme une chose toute naturelle. Et ils conçurent une haute idée du caractère d'un prince qui, même dans l'impuissance où il se trouvait, pouvait inspirer à ses sujets de tels sentiments de respect. Cependant, la chambre commençait à se remplir d'objets précieux. Mais les distances étaient grandes et les rentrées se faisaient lentement. La plupart se composaient de pièces de vaisselle massive, dont quelques-unes pesaient 2 ou 3 arrobas, poids espagnol de 25 livres. À certains jours, on apporta des patères, des articles de la valeur de 30 ou 40 000 pesos de oro, et parfois de 50 ou même 60 000 pesos. Les yeux avides des conquérants couvaient les masses brillantes de trésors qui étaient sur les épaules des Indiens et que ceux-ci déposaient aux pieds de leur infortuné monarque. Mais quel espace il restait encore à remplir! Comme ces soldats commençaient à montrer de l'impatience, Pizarre envoya son frère Fernand à Cusco avec ses cavaliers et un ordre de l'Inca, et les Péruviens durent hâtivement dépouiller leurs maisons et leurs temples. Le nombre des plaques que les envoyés de Pizarre enlevèrent eux-mêmes au Temple du Soleil était de 700, et quoiqu'elles ne fussent sans doute pas d'une grande épaisseur, on les compare pour la dimension au couvercle d'un coffre de 10 ou 12 pouces de large. L'édifice était entouré d'un corniche d'or pur, mais qui était si solidement fixé dans la pierre qu'elle défia heureusement tous les efforts des spoliateurs. Les messagers rapportaient avec eux, outre l'argent, 200 cargas ou charges d'or complètes. C'était un accroissement considérable aux contributions d'Atahualpa. Et bien que le trésor fût encore fort au-dessous de la marque prescrite, le monarque voyait approcher avec satisfaction le moment où serait entièrement réalisée sa rançon. Les Espagnols n'eurent point encore la patience d'attendre ce moment-là. Des bruits de révolte couraient le royaume. Il fallait marcher sur Cusco au plus vite avec les quelques renforts venus récemment de Panama. Mais pour rien au monde, les aventuriers n'eussent laissé derrière eux un pareil trésor. Ils décidèrent le partage. Cependant, avant d'y procéder, il fallait réduire la totalité en lingots d'un titre et d'un poids uniforme, car le butin se composait d'une variété infinie d'articles dans lesquels l'or se trouvait à des degrés de pureté très différents. Ces articles consistaient en gobelets, guillères, plateaux, vases de toutes formes et de toutes grandeurs, ornements et ustensiles pour les temples et les palais royaux, tuiles et plaques pour la décoration des édifices publics, imitations curieuses de plantes et d'animaux divers. Parmi les plantes, la plus belle était le maïs, dont l'épi d'or était renfermé dans ses larges feuilles d'argent, d'où pendait un gland formé de fils du même métal. On admirait beaucoup aussi une fontaine qui lançait un jet brillant d'or, tandis qu'au-dessous des oiseaux et des animaux de la même matière se jouaient dans les eaux. La délicatesse du travail, la beauté et l'habile exécution du dessin excitèrent l'admiration de meilleurs juges que les grossiers conquérants du Pérou. Avant de briser ces échantillons de l'art indien, il fut décidé d'en envoyer à Charles Quint un certain nombre qui serait déduit du 5e royal. Il donnerait une idée de l'habileté des indigènes et témoignerait du prix de la conquête. La fonte de la vaisselle fut confiée aux orfèvres du pays, à qui on demandait ainsi de détruire l'ouvrage de leurs mains. Ils travaillèrent jour et nuit. Mais la quantité de métal à refondre était si considérable qu'il fallut un mois entier. Lorsque le tout fut réduit en lingots d'un titre uniforme, ils furent pesés soigneusement sous la surveillance des inspecteurs royaux. On trouva que la valeur totale de l'or était d'1 326 539 pesos de oro, ce qui, en tenant compte de la plus-value de l'argent au XVIe siècle, équivaudrait aujourd'hui à plus de 3,5 millions de livres sterling, ou un peu moins de 15,5 millions de dollars, c'est-à-dire 77,5 millions de francs. La quantité d'argent fut estimée à 51,610 marques. Le partage de toutes ces richesses effectuées, le roi captif gênait de plus en plus les conquérants. Remettre Atahualpa en liberté était la dernière des fautes à commettre. Alors ils résolurent l'abominable chose. D'abord, ils l'accusèrent de préparer sournoisement le soulèvement de ses sujets contre les Espagnols de Caramaja. Atahualpa répondit à Pizarro: ne suis-je pas un pauvre captif entre vos mains? Comment pourrais-je former les projets que vous m'imputez, moi qui en serais la première victime s'ils venaient à éclater? Et vous connaissez peu mon peuple, si vous croyez qu'un tel mouvement se ferait sans mes ordres, lorsque les oiseaux même dans mes états oseraient à peine voler contre ma volonté. Mais ces protestations d'innocence eurent peu d'effet sur les troupes, parmi lesquelles le bruit d'un soulèvement général continuait à s'accréditer d'heure en heure. On disait qu'une force considérable était déjà rassemblée à Guamachucho, à moins de 100 000 du camp, et qu'on pouvait s'attendre à être attaqué d'un moment à l'autre. Le trésor que les Espagnols avaient acquis présentait un butin plutôt séduisant, et leurs alarmes s'accroissaient par la crainte de le perdre. Les patrouilles furent doublées et les chevaux tenus en selle et bridés. Les soldats dormaient tous armés, et Pizarre faisait régulièrement sa ronde pour voir si chaque sentinelle était à son poste. La petite armée, en un mot, se préparait à repousser une attaque soudaine. Mais les aventuriers réclamaient avant tout la mort de l'Inca. Pizarre se défendit ou feignit de se défendre d'une pareille trahison, mais enfin il dut céder et l'Inca passa en jugement. Il fut convaincu d'avoir essayé d'exciter une insurrection contre les Espagnols et condamné à être brûlé vif. Lorsque la sentence fut communiquée à Atahualpa, il en fut extrêmement surpris. Il était jeune, il était brave, et il fallait mourir. Cette conviction accablante abattit un moment son courage, et il s'écria, les larmes aux yeux, « Mais qu'avons-nous fait, moi ou mes enfants, pour mériter une telle destinée ? Et par vos mains encore, dit-il s'adressant à Pizarre, vous qui n'avez rencontré chez mon peuple qu'amitié et bienveillance ?» avec qui j'ai partagé mes trésors, qui n'avait reçu de moi que des bienfaits. » L'arrêt de l'Inca fut proclamé au son de la trompette sur la grande place de Caramaja. 2 heures après le coucher du soleil, les soldats espagnols s'assemblèrent sur la plaza à la lueur des torches pour assister à l'exécution de la sentence. C'était le 29 d'août 1533. Atahualpa sortit de cette salle chargée de chaînes. Le martyr est passé par cette porte. L'homme rouge était descendu à nouveau de son escabeau. Il allait, venait, suivait sur les dalles la marche d'Atahualpa conduite au supplice, cependant que sa voix s'était faite plus solennelle, plus évocatrice encore. De cette lugubre histoire que nous venons de rapporter, il avait eu la science de laisser de côté tout ce qui pouvait faire admirer l'audace immense des conquistadores et la lâcheté des serviteurs de l'Inca. Tout était mis sur le compte de la trahison. Arrivé à ce point de son récit, où le malheureux monarque monta sur le bûcher, l'orateur se tourna soudain vers ce coin de la salle où, immobile, emprisonné par la foule des fidèles, se tenait Cristobal de la Torre et ses compagnons. Et là, de toute évidence, il parla pour eux, il parla pour les étrangers. Son verbe se fit menaçant et prophétique. En vérité, je vous le dis, maudit sur les fils de ceux qui ont eu le mensonge en bouche. Mourront comme des fils de chiens et ne connaîtront jamais les demeures enchantées du soleil. Les fils de ceux qui ont prétendu qu'au moment de la mort d'Atahualpa abjurer notre sainte religion. Le fils du soleil est resté fidèle à l'astre du jour. Et en effet, cette protestation n'était sans doute que l'expression de la vérité. Tout ce que les témoins oculaires nous ont rapporté d'Atahualpa, de son courage, de son caractère, de son impassibilité, ne concorde nullement avec le récit que nous ont laissé les moines relativement à la conversion. Ils prétendent que, lorsque l'Inca fut attaché au poteau du supplice, entouré des fagots qui allaient bientôt le consumer, le dominicain Valrude promit au roi que, s'il consentait à recevoir le baptême, la mort cruelle à laquelle il était condamné serait commuée en la peine plus douce du garrot. On l'étranglerait avant qu'il brûlât. Et Atahualpa aurait consenti, aurait reçu le nom de Jean en l'honneur de Saint Jean-Baptiste, dont on célébrait la fête ce jour-là. Pendant que l'Indien rouge protestait ainsi et maudissait les bourreaux, pendant qu'il s'écriait « Ainsi mourut le dernier roi des Incas de la mort d'un vil malfaiteur. » Pendant qu'il montrait avec extase la pierre où Atahualpa avait rendu le dernier soupir, un grondement de colère et de révolte commençait de monter dans la vaste salle autour des étrangers. Tous les visages tournés vers eux étaient menaçants. Sans doute les trouvait-on bien sacrilèges d'avoir osé franchir le seuil de ce lieu sacré dans un pareil moment. Tant de siècles d'esclavage n'avaient point courbé si bien les fronts qu'ils ne pussent à certaines heures se relever, et il paraissait bien que l'on fût dans une de ces heures-là. Laissez passer la Vierge du Soleil. Hommes, femmes, enfants qui avaient envahi l'enceinte derrière les chefs se poussaient autour de la petite caravane dans une attention si évidemment hostile que Raymond s'écria « Oh, il faut sortir d'ici !»« Oui, sortons d'ici au plus vite !» fit Marie-Thérèse. Le marquis voulut y consentir, bien qu'il répugnât à montrer de la crainte de quoi que ce fût. Comme ils essayaient de pousser leur monture, un grand cri quichois les enveloppa. Une immense clameur douloureuse où la mort d'Atahualpa était pleurée, et des poings se levèrent sur eux. La situation était des plus critiques. Cristobal dit « En avant !» Et le premier, il enfonça ses éperons dans les flancs de sa mule, qui se cabra au milieu d'un tumulte inouï et retomba sur la foule hurlante. Des couteaux sortirent de leurs gaines et le sang allait couler, quand un grand remous se produisit dans la salle. Un homme de haute stature se frayait un chemin jusqu'à la caravane, et chacun s'effaçait avec respect ou terreur sur son passage. Il frappait de droite et de gauche, ce qui ne lui faisait pas place assez vite. Marie-Thérèse, Cristobal et Raymond reconnurent Ourascar. Ainsi arriva-t-il devant la mule de Marie-Thérèse, dont il prit les rênes en main, et sa voix retentissante couvrit tous les bruits. « Celui-là est mort, s'écria-t-il, qui touche à la Vierge du Soleil !» À ces mots, tous les poings, tous les bras menaçants s'abaissèrent, et un grand calme succéda immédiatement au tumulte. Alors la voix de Ouascar se fit encore entendre. « Laissez passer les étrangers !» Et il marcha devant eux. Sans autre dommage, ils parvinrent sur la place, où des gardiens municipaux vinrent immédiatement se mettre à leur disposition, en leur faisant comprendre combien il était imprudent pour eux de rester dans ce quartier au milieu d'Indiens fanatiques à la veille de l'Interahimi. « Nous allons vous conduire à l'auberge, » dirent-ils. Et ils les accompagnèrent. Cristobal aurait voulu remercier Ouascar, mais l'Indien avait déjà disparu. Quant à Marie-Thérèse et à Raymond, ils étaient fort pâles et ne disaient pas un mot. François Gaspard paraissait tout à fait abasourdi et ne prenait plus de notes. À l'auberge, ils ne trouvèrent qu'une chambre dans laquelle ils s'enfermèrent immédiatement. Et ce fut Raymond qui, le premier, prononça la parole fatale. « Et si c'était vrai ?»« Oui, oui !» s'écria Marie-Thérèse. « Si c'était vrai !»« Quoi, si c'était vrai, quoi, si c'était vrai ?» interrogea à demi-fou le marquis qui comprenait bien ce que les deux autres voulaient dire. Si c'était vrai, l'épouse du soleil! Ils restèrent un moment sans parler, courbés sous le poids de la pensée extraordinaire, absurde, monstrueuse. Et ils se regardèrent, inquiets et peureux, comme des enfants que l'on promène dans un abominable conte de fées. Raymond reprit d'une voix sourde : Vous avez entendu, Ouascar ? « Mort est celui qui touchera la Vierge du Soleil. Laissez passer la Vierge du Soleil. »« C'est peut-être une façon de parler qu'ils ont comme ça, » émit François Gaspard. « Ça peut être que ça. »« Mais que ça, quoi ? Que ça, quoi ?» s'exclama encore le marquis, qui perdait tout à fait la tête et qui regrettait bien le voyage à Caramarca. François Gaspard timidement expliqua « C'est peut-être que ça, parce que ça peut pas être autre chose, l'autre chose. Si Mademoiselle Marie-Thérèse devait être l'épouse du soleil, on ne l'aurait pas laissé partir, il l'aurait gardée. Mais ah, ça, mais qu'est-ce que vous nous chantez, mon cher hôte? Est-ce que vous devenez fou? S'écria Cristobal qui ne se voyait pas lui-même. Est-ce que vous croyez qu'on peut nous arrêter comme ça? Mais nous sommes les maîtres ici. Mais il y a de la police ici, de la troupe. Mais tous ces misérables sont nos esclaves. Ma parole, nous rêvons tout haut. Oui, oui, nous rêvons tout haut, fit Marie-Thérèse en secouant sa belle tête pensive. Mon avis est que nous quittions Carmarca le plus tôt possible, dit Raymond sans autre explication. Et il alla se camper au coin d'une fenêtre pour regarder ce qui se passait devant l'auberge. La nuit était venue, la place était déserte, il y avait maintenant un grand silence sur Carmarca. Soudain, on frappa à la porte de la chambre. Un domestique apportait une lettre, un mot à l'adresse de Marie-Thérèse. Elle lut tout haut. « Partez, rentrez à Lima, quittez Carmarca cette nuit. » Ce n'était pas signé, mais la jeune fille n'hésita pas. Oh, « C'est un avis qui nous vient de Huascar, » dit-elle. « Et il faut le suivre, » dit Raymond. De nouveau, on frappa à la porte. Cette fois, c'était le maître de police qui se faisait annoncer. On le reçut. Il voulait savoir ce qui s'était passé et si Cristobal avait eu réellement à se plaindre des Indiens. On lui avait fait un rapport qui représentait ceux-ci comme fort excités contre les étrangers, lesquels avaient osé, la veille de l'Interaimi, pénétrer dans l'ancien palais d'Atahualpa à l'heure de la prière. Il ajouta qu'un employé de la banque franco-belge de Lima, qui prétendait connaître le marquis et sa famille et avoir fait le voyage de compagnie, était venu le trouver pour lui conseiller de dire au marquis et à ses compagnons de ne se point montrer dans la ville le lendemain, surtout dans les quartiers fréquentés par les Indiens, après l'imprudence qu'ils avaient commise. Il était visible que le maître de police redoutait quelque mauvaise histoire et aurait voulu voir Cristobal et ses compagnons à 100 lieues de là. On le rassura en lui annonçant que le départ était décidé pour la nuit même. Il s'y employa aussitôt avec zèle, procura à la petite troupe des mules fraîches un bon guide et la fit accompagner de 4 soldats qui ne devaient la quitter qu'à la première station du chemin de fer. L'expédition se mit en route vers 11 heures du soir et refit le même chemin, parcourut les mêmes étapes en moitié moins de temps qu'à l'aller. Raymond pressait tout le monde et se montrait, lui ordinairement si calme, le plus déraisonnable. Ce ne fut que le lendemain soir, quand ils furent tous installés dans le chemin de fer de Pascamayo, que les voyageurs se rendirent compte de ce que cette fuite avait d'un peu ridicule. « Nous sommes plus enfants que la tante Agnès et que la vieille Irène, » déclara en riant le marquis. Du fait, tout le monde fut de son avis. De retour dans la vie ordinaire, civilisée, il ne comprenait plus comment ils s'étaient laissés tous aller à cette inquiétude galopante, et cela à la suite d'un événement tout naturel. La méchante humeur d'un peuple troublé par l'étranger dans ses habitudes ou dans son culte, et qui devait du reste avoir déjà oublié l'incident. Le mieux serait qu'ils l'oubliassent eux-mêmes au plus vite. Le voyage se termina le mieux du monde, en gaieté à cause de François Gaspard, qui se fit rincer pour embarquer avec le même entrain qu'il avait montré au départ. À Lima, toute sécurité leur était revenue, et il ne fallut pas 48 heures pour effacer, comme il disait, le souvenir de leurs enfantillages. Au surplus, Marie-Thérèse avait trouvé en rentrant beaucoup de besogne en retard. Le guano attendait de promptes décisions et la jeune fille dut se plonger jusqu'au cou dans les affaires et dans les chiffres. Certes, Hall n'avait plus le temps de penser au fameux bracelet soleil d'or. Akalaol ne quittait point les gros registres verts jusqu'à l'heure où Raymond venait frapper à sa fenêtre pour lui annoncer que l'heure du retour à Lima avait sonné. Certains soirs, 8 jours environ après les événements de Cajamarca, les coups habituels furent frappés à 1 heure moins tardive qu'à l'ordinaire. Elle se leva pour accueillir son fiancé. Elle ouvrit la fenêtre, mais cette fenêtre ne fut pas plus tôt ouverte que Marie-Thérèse recula en poussant une sourde exclamation. Ce n'était pas Raymond qui était là devant elle. C'était... Maintenant, elle ne distinguait plus rien devant l'obscurité commençante. Elle se frotta les yeux comme si elle voulait chasser une hallucination. Et puis elle eut le courage, oui, le vrai courage, de se pencher à nouveau sur la rue. Il lui semblait que quelque chose de bizarre et de mal équilibré remuait et balançait dans l'ombre. Quelque chose qui ressemblait au crâne peint de sucre oscillant sur sa base. Elle se retourna, tremblant de la tête aux pieds. Et alors, aussi dans les deux coins d'ombre du bureau, elle crut voir encore, se balançant aussi tout en s'avançant vers elle avec des mouvements de pendule, la casquette crâne et le crâne petite valise. Elle put croire à un moment de folie et qu'elle était encore hantée par toutes les vieilles histoires qui avaient accompagné le bracelet Soleil d'Or. Elle fit un effort prodigieux pour chasser cette folie de son cerveau et de ses yeux. Voyons, mais elle savait bien que les crânes des momies ne reviennent pas vivants sur des épaules vivantes. Cependant, ils approchaient, oscillant, basculant. Alors elle poussa un cri affreux pour chasser l'abominable vision, un appel au secours délirant. « Raymond !» Mais ce cri mourut étouffé dans sa gorge. Les trois crânes vivants avaient sauté sur elle, le crâne peint de sucre avait bondi par le trou noir de la fenêtre, et maintenant les trois crânes grouillaient de elle, l'annihilaient, la faisaient muette et prisonnière et l'emportaient par le trou noir de la fenêtre. Là, l'auto attendait avec le boy, et ce boy, au singulier sourire, tenait le volant. Et l'auto partit à toute vitesse dès qu'ils y furent montés, les trois monstres avec leurs fardeaux, les trois affreuses larves qui glissaient sur la bouche râlante de l'épouse du soleil, leurs petits poings hideux de momies vivantes.